je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous, c'est grâce à l'extraordinaire mouvement de 10 millions de travailleurs en mai 1968. Récemment, M. Marcellin, le ministre de l'Intérieur, nous expliquait que le pouvoir était dans les urnes et qu'il n'était pas dans la rue. Il est clair que pour nous, jamais la gauche socialiste ne peut envisager de prendre le pouvoir, d'imposer ses solutions à l'aide des élections ou à l'aide d'une quelconque consultation électorale.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 12 mars, Alain Krivine est mort sans avoir vu son rêve se réaliser, rejoignant, mélancolique, le paradis des 68ards. Un slogan avait fleuri entre les pavés de mai, que l'on entend encore à l'occasion dans certaines manifestations, « Élection, piège à con ». Jean-Paul Sartre en fit le titre d'un article dans Les Temps modernes. On y lit ceci. L'isoloir, planté dans une salle d'école ou de mairie, est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. Étrange quand on se souvient que le secret du vote est l'une des grandes revendications populaires du 19e siècle pour que le suffrage ne reconduise pas la République des notables. Sur un point toutefois, Sartre a raison. L'histoire du vote ne manie pas seulement de grands principes, mais des meubles, des objets, des rituels, des manières de faire. Une histoire concrète, une histoire de longue durée, n'ayant pas attendu le sacre des citoyens à l'âge du suffrage universel pour inventer ses procédures. Savez-vous que les citoyens genevois exigèrent en 1707 de voter à l'abri des regards, dans un isoloir ? Moi, je ne le savais pas. Avant de lire le livre de Raphaël Barra, qui nous raconte le jour, en 1691, à Genève, où les citoyens menacèrent de faire sauter les vieux. Tel est son sous-titre. À la question « Voter pour quoi faire ?», il a une réponse à apporter, et elle nous vient d'un passé ancien, à distance des généalogies convenues de la souveraineté. Il est notre invité dans Histoire 2, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Paulin Ismar, et une invitée spéciale, guest star, Mathilde Larère. Raphaël Barra, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes historien de l'époque moderne, maître de conférence à l'université de Caen. Et cette élection, cette histoire d'élection genevoise, vous l'avez déjà racontée une fois, savamment, dans un livre paru en 2018 aux éditions de Rose, « Les élections que fait le peuple », qui était issue de votre thèse. Puis, vous la racontez à nouveau, mais de manière plus vive, dans un petit livre qui paraît chez Payot et qui soulage un peu notre porte-monnaie. C'est moins cher et c'est plus court. Pourquoi avez-vous pensé que cet épisode ne devait pas rester tapis dans une thèse d'histoire ?
Mais j'avais envie effectivement de faire une version plus courte et narrative de ce travail de thèse, pour le rendre accessible à un public plus large, pour vulgariser d'une certaine façon, et je pense que c'est une belle chose. Mmh. Puis aussi pour m'imposer cet exercice d'écriture et de tenter de raconter une histoire tout en gardant une qualité analytique et en continuant à soulever des problèmes.
Oui, parce que ces problèmes, c'est au fond les enjeux de la démocratie participative, c'est-à-dire notre capacité à aller chercher dans le passé des exemples pour démocratiser la démocratie, comme le dit Loïc Blondiot.
Oui, exactement. Et c'est aussi une façon de poser ces problèmes sur le temps long et d'essayer de voir ce que peut nous apporter le regard des anciens, qui est un regard un peu décalé finalement par rapport à notre époque, puisque dès 1707 à Genève, on parle de démocratie directe, on parle de procédures qui ressemblent à l'initiative populaire suisse actuellement ou qui pourraient ressembler au RIC des Gilets jaunes, qui sont finalement des mécanismes qu'on a eu tendance à oublier en France pendant assez longtemps.
Bah oui, parce que l'histoire se passe à Genève au XVIIe siècle et les Suisses n'ont pas leur pareil pour dresser des généalogies au cordeau de la Confédération helvétique au temps de Guillaume Tell jusqu'au référendum actuel. Donc il y a un substrat, il y a une expérience politique, il y a une tradition démocratique.
Oui, une tradition démocratique suisse dans les cantons centraux qu'on appelle les cantons à Landsgemeinde, donc autour du lac des Quatre Cantons, le cœur historique de la Suisse, mais aussi à Genève, alors qu'il ne fait pas partie des cantons suisses à l'époque, mais qui est un pays allié, plutôt allié avec les cantons protestants d'ailleurs, pour des raisons évidentes, mais qui a gardé une tradition communale très, très, très vivace, qui est héritée du Moyen-Âge, et qui apparaît comme une espèce de survivance médiévale, finalement, au XVIIe siècle que j'ai étudié, où dans la plupart des cantons suisses ou dans la plupart des républiques européennes, des régimes patriciens ont triomphé, mais Genève continue d'avoir son conseil général qui est appelé deux fois l'an dans des élections et qui en théorie est le souverain de la République.
premier dimanche de novembre, premier dimanche de janvier
également,
on vote. Qui vote d'ailleurs?
Alors, ceux qui votent, ce sont les citoyens. Donc, on les appelle le peuple. On parle de démocratie, mais c'est une démocratie qui n'est pas définie dans des termes universalistes comme on pourrait les connaître actuellement. Bien sûr, elle n'inclut pas les femmes, mais elle inclut en gros un tiers de la population masculine adulte à la fin du XVIIe siècle, à l'exclusion donc des habitants, qui sont les étrangers qui peuvent résider en ville moyennant une lettre d'habitation, qui sont dû payer, et ainsi que les natifs qui sont leurs descendants, et puis les gens qui sont assistés de la charité publique. Mais faire voter un tiers de la population masculine adulte à cette époque-là, ça n'est pas rien.
Il faut s'organiser.
Il faut s'organiser et on fait voter des gens qui ont une certaine diversité sociale, donc y compris des artisans dont certains c'est quand même très modeste, voire miséreux, pas tous. Hein, il y a aussi des artisans plus prospères, mais on accepte d'avoir une assemblée large avec une diversité sociale qui va voter.
Alors plantons le décor puisque effectivement il y a une histoire à raconter et vous adoptez ce ton narratif, Raphaël Barra, dans votre livre Voter pour rien. Donc la cloche sonne, les citoyens arrivent, on est en Suisse, chacun est à sa place, tout est bien rangé.
Oui, alors donc la cloche sonne, on est le premier dimanche de janvier, un peu après 9h. Donc les premiers qui vont arriver, c'est le petit conseil. Ils arrivent en procession depuis la maison de ville et ils vont s'asseoir dans le cœur du temple. Le temple, c'est l'ancienne cathédrale, donc il a un plan en croix latine. Ils vont s'asseoir dans le cœur sur des gradins et ils vont faire face à l'assemblée, ce qui est un signe évident de leur supériorité. Ce sont eux qui gouvernent la République, ils sont 28 en gros, ils appartiennent à quelques familles fortement liées par des intermariages, ils ont leur poste à vie et ils se cooptent. Ces gens ne sont pas élus, ils se cooptent. Ensuite, dans le transept, les pasteurs vont s'asseoir. Et puis, dans les bandes devant, dans la nef, on aura les auditeurs qui sont des officiers de police. Et puis, le conseil de 200, qui est l'antichambre du petit conseil. En gros, c'est les jeunes de bonne famille qui attendent d'accéder au petit conseil. Et puis, finalement, les simples citoyens qui occupent ce qu'on appelle les bancs communs, jusque dans le bas du temple, qui vont s'asseoir dans sur les autres bancs. Et donc, cette disposition de l'espace reflète la hiérarchie sociale et politique qui règne dans la République. Et on va suivre cet ordre pour voter. Ceux du petit conseil en premier, ensuite les pasteurs, le 200 et finalement les citoyens.
Et pour voter, les électeurs sont invités à dire leur choix à l'oreille de trois secrétaires en passant devant le gradin où siègent les syndics. Et ça, évidemment, c'est décisif.
Exactement. Ici, on parle de vote auriculaire, donc à l'oreille de trois secrétaires. Le problème, c'est que la table des secrétaires est juste au pied des gradins où siègent les syndics et le petit conseil, et que les électeurs souvent se sentent intimidés. Donc, ils vont écrire des mémoires bourgeois en 1706, notamment pour se plaindre de ce dispositif. Ils sont intimidés par la présence de trop près de messieurs les syndics, de messieurs des petits conseils. Alors, on fait tendre un rideau entre les gradins et la table des secrétaires.
Ah oui, tout ça, c'est très concret. C'est des histoires d'espace, en fait.
C'est
des récits d'espace.
Très théâtral, mais en fait, c'est vécu de manière très forte par les citoyens au moment où ils vont voter. Le mémoire de 1706 donne 23 points différents par lesquels les citoyens se plaignent de ce dispositif. Donc les syndics sont trop près, les secrétaires les regardent dans les yeux, ils les font répéter certains noms, donc ça les oblige à parler fort, ce qui les gêne. Ils n'ont pas assez le temps de se décider, alors que dans un isoloir, une loge, ils auraient le temps de suivre les mouvements de leur conscience. Et donc ils disent qu'ils ne peuvent pas suivre les sentiments de leur conscience à cause de ce dispositif. Ils ne peuvent pas honorer le serment qu'ils ont juré d'élire les plus idoines. Donc, ils mettent en jeu le salut de leur âme.
Et puis,
ils sont amenés à violer leur serment.
C'est ça. Et puis, bientôt, en 1671, 81, 91, des rumeurs, des libelles circulent. Le peuple veut faire sauter les vieux. Hein, entendez qu'ils veulent sortir les sortants. Hein. C'est une sorte de dégagisme d'ancien régime. On appelle ça la brigue. En fait, ce qu'ils craignent, c'est la brigue.
Oui, alors il faut expliquer voilà, que ce mécanisme, il y a des mécanismes très bien huilés et tout ça fonctionne la plupart du temps assez bien, et on réélit toujours plus ou moins les mêmes personnes qui viennent du petit conseil, qui ont été proposées à certaines magistratures, notamment celles de syndic, qui sont les magistratures les plus prestigieuses, et ils reviennent en charge après des périodes d'inéligibilité imposées tous les 4 ans pour les syndics, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir que néanmoins, à de rares occasions, des grains de sable se glissent dans ces mécanismes où on pense à un moment à ne plus respecter finalement cette déférence qu'on attend des citoyens. Et donc des rumeurs parcourent la ville. On va faire sauter les vieux, on va faire sauter les vieux seigneurs nommés. On parle de ça dans les tavernes, devant les portes, sur les places. On ne le fait pas toujours, mais je trouve que c'est intéressant de restituer cette expérience. Même si au bout du compte, les sortants sont reconduits. Il s'est passé quelque chose, on a douté, et ça a été un moment important dans la vie des citoyens, dans la vie politique.
Mais oui, parce que même quand il ne se passe pas grand-chose, il se passe quelque chose pour l'historien du politique qui est attentif, comme vous, Raphaël Barra, aux procédures, aux bruits, à la parole politique qui se libère tout de même. Il y a un pasteur qui joue un rôle essentiel dans cette histoire, c'est Louis Tronchin. Et je lis dans votre thèse que dans une de ses exhortations préélectorales, il rappelle comment Côme de Médicis a asservi Florence, qui est devenue esclave pour, je cite, « n'avoir pas de bonheur rompu les chaînes d'argent dont on se servait pour la lier ». Donc c'est une histoire de corruption et c'est aussi une histoire de référence historique. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le passé, d'ailleurs dans le passé médiéval, de quoi réarmer les consciences et les énergies et les mobilisations.
Oui, c'est le vieux schéma qu'on peut même qualifier d'antique, de la dégénérescence des républiques qui d'aristocratiques deviennent oligarchiques puis monarchiques quand elles sont dominées par une seule famille, puis peut-être est l'homme le plus riche au sein de cette famille. Tronchin n'est pas le seul à le dire, les révoltés vont le dire en 1707. Alors Tronchin, c'est plus étonnant puisqu'il est quand même assez proche de l'aristocratie gouvernementale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette critique qu'il se permet, elle est dans le brouillon d'un sermon qu'il ne prononce pas finalement. Donc il a parfois... Il a une vision très morale de la magistrature. Il pense justement que les magistrats ne doivent pas être soumis à la corruption, qu'ils doivent être vertueux, etc. Mais on ne peut pas en faire pour autant un défenseur de la souveraineté populaire comme Fassio ou d'autres oui. Fassio qui finira fusillé. Par
exemple. Justement, on y vient parce que là, en 1707, là, le système se grippe vraiment. 5 mois de crise au cours de laquelle la parole politique se libère. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de voter par billet. Et isoloir, invoquant justement le précédent des ballottes de Venise. Là encore, on va chercher dans les républiques italiennes un modèle de démocratie.
Oui, c'est au terme de ces 5 mois d'agitation, de crise, d'assemblées publiques un peu partout dans la ville, qui sont interdites au bout de quelques mois, mais qui se multiplient d'autant plus quand elles sont interdites, que les conseils vont être, donc les petits et grands conseils, vont être poussés à faire des concessions pour calmer l'agitation populaire. Et une de ces concessions, c'était une demande des citoyens depuis le début, c'était de voter effectivement par billet dans une loge. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de modèle de ce que peut être un isoloir, en fait. Donc, ils appellent ça une loge. Un tabernacle, un pavillon parfois. Il donne l'exemple de Venise, mais pour montrer que c'est différent, justement. Parce qu'en fait, les deux exemples qu'ils ont, c'est les ballottes à Venise et les tablettes dans la République romaine ancienne. Ce sont des exemples qui sont mobilisés pour montrer justement que c'est différent. Et les adversaires de l'isoloir disent justement à Venise, on ne se cache pas. On vote avec des ballottes, donc des petites balles de lin qu'on met dans un vase amené par un enfant entre les rangs des conseillers et qu'on met dans un compartiment oui, un compartiment non. Mais on ne se cache pas, alors que l'isoloir est une cachette qui permet de voter contre le bien public sans avoir à encourir quelque honte.
Oui, et donc Pierre Fassio, qui va d'ailleurs se faire exécuter à la fin de cette histoire, eh bien pour lui, la souveraineté du conseil est devenue chimérique et on lui prête cette phrase essentiel, ne laisser au peuple que l'élection, c'est lui ravir tout le reste. Et donc c'est d'une certaine manière une première réponse à notre question, voter pour quoi faire ? Pour faire du peuple une communauté délibérante.
Oui, parce que la souveraineté du Conseil Général ne devrait pas s'appuyer seulement sur l'élection. En fait, le Conseil Général est censé être le souverain de la République, les magistrats s'adressent au peuple en tant que souverain seigneur, et en théorie, il peut exercer cette souveraineté en votant les lois, en votant les impôts, ou même les alliances diplomatiques. Mais en 1707, il n'a pas été convoqué une seule fois dans cette fonction depuis 123 ans. Alors, les magistrats gouvernementaux, comme Chouet ou Leclerc, disent que c'est parce que le peuple était ravi de son bonheur. Fassio dit que c'est tout simplement une aliénation de la souveraineté, et qu'une véritable souveraineté, c'est qu'on convoque régulièrement le peuple pour voter sur les lois.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Mathilde Larrère, bonjour.
Bonjour.
Vous nous rejoignez dans la seconde partie de l'émission. Et avouez que ça vous a quand même étonné, cet isoloir en 1707.
Ah, mais je connaissais pas du tout. J'avais jamais vu ça, ni dans les débats parlementaires sur l'isoloir à la fin du 19e siècle, ni dans les ouvrages sur l'histoire du vote au 19e siècle.
Bah, on en apprend tous les jours.
Hein, mais c'est ça qui est génial. J'ai
avec
adoré.
Avec l'histoire. Ouais. On en parle tout à l'heure après 4 Power. Je vous dois un aveu. Moi, je pensais naïvement que l'histoire électorale, c'était toujours un peu ennuyeux. Elle peut l'être, d'ailleurs, quand elle se contente d'analyser les résultats. Mais ici, avec nos invités, on prend au sérieux le titre de notre émission, Voter pour quoi faire, en se posant justement la question du faire. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on vote? Mathilde Larrère, je commence par vous. Vous êtes donc historienne des mouvements révolutionnaires au 19e siècle, maître de conférences à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes attentive aux pratiques politiques. Est-ce que ce qui vous a intéressé, vous l'avez dit tout à l'heure dans le livre de Raphaël Barra, Voter pour rien, 1691, le jour où les citoyens menacèrent de faire sauter les vieux, c'est le fait qui nous permet de comprendre que ce qu'il y a de plus politique dans une élection, au fond, c'est le choix de la technologie du vote.
En tout cas, c'est politique. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus politique, mais c'est politique. Mais oui, c'est évident. Et effectivement, il faut être attentif à tous les détails. Donc, au moment, avant le vote déjà, hein, les campagnes, la façon dont on mobilise, ensuite pendant le vote, isoloir, pas isoloir, billet plié, pas plié, enveloppe, pas enveloppe, répartition des acteurs dans l'espace, enfin, tout est présent. Et après, il y aurait plein de choses à dire sur le dépouillement et sur l'annonce des résultats. En fait, l'histoire matérielle et des technologies de vote, elle est sur un temps, sur une séquence assez longue. Et c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire l'histoire, j'aimais bien l'expression de Raphaël tout à l'heure, des grains de sable. Moi, ça m'intéresse de voir comment les grains de sable grippent la mécanique des puissants. Et c'est parce que l'on va regarder les technologies, les techniques de vote qu'on va pouvoir trouver les grains de sable, en fait.
Raphaël Barra, d'ailleurs, vous le faites collectivement avec un programme de recherche, tout ça est sur le site, qui étudie les pratiques électorales de l'Antiquité à nos jours. Donc il y a un intérêt, évidemment, à cette comparaison historique.
Oui, c'est un programme de recherche qui est de Virginie Allard et Romain Meltz sur la postérité du vote romain, plus précisément. Donc comment les références au vote romain sont réactualisées au Moyen-Âge, à l'époque moderne et même jusqu'à l'époque contemporaine. Et j'avais écrit un article avec Virginie Allard justement sur l'utilisation de Cicéron dans les débats genevois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les adversaires du vote secret font référence au traité des lois de Cicéron où Cicéron explique que le vote secret, en fait, c'est une forme de lâcheté qui permet de voter contre le bien public, etc. et que un vote véritablement libre doit être inspiré par l'exemple des hommes de bien, par l'exemple des personnages les plus importants, en fait, dans la société.
C'est déjà le cas au XIXe siècle, bien sûr. Mathilde Larrère, vous avez étudié jadis dans votre livre sur la garde nationale la question justement de cette déférence électorale dont parle Raphaël Barra. Comment faire en sorte de gripper le mécanisme qui favorise toujours la reconduction des sortants? Alors entre 1830 et 1848, il ne s'agissait pas de faire sauter les vieux, mais de virer les gros bonnets.
C'est ça, c'était le terme de l'époque, virer les gros bonnets. Et effectivement, je l'ai étudié dans le cadre de la garde nationale. Alors peut-être juste pour les auditeurs et les auditrices, que c'est que la garde nationale, parce que bon, moi je connais, mais c'est une force citoyenne qui est créée en 1789 et qui va exister en France jusqu'à la Commune, après laquelle elle sera supprimée pour y avoir participé, et qui a eu dans son histoire un certain nombre de temps où les soldats ont élu leurs officiers. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que pour la monarchie de Juillet, le vote politique était très restreint, à peu près 5% des hommes en âge de voter. En revanche, les gardes nationaux étaient beaucoup plus nombreux. Et donc, à Paris, par exemple, il y a 16 000 hommes qui élisent les députés, mais il y a 60 000 hommes qui élisent les gardes nationaux. D'où l'intérêt de travailler sur ces élections. Et on a déjà là un petit grain de sable.
Oui.
Et effectivement, quand on travaille sur les élections de la garde nationale, on se rend compte que les premières années, c'est tous les 3 ans, les élections. En fait, ils font exactement comme à Genève en 1707. Ils élisent les sortants, enfin, ils reconduisent les sortants. Moi, j'utilisais l'expression qui est plus 19e, de sacre des notables, puisque la question de la notabilité, elle est présente au 19e siècle. Et en fait, les choses vont se gripper à partir de 1838-39. Parce que, en fait, il va y avoir un désir des bourgeois de participer à ces charges, parce qu'elles sont prestigieuses, etc. Et en fait, là, le moyen d'y parvenir, c'est pas de changer les techniques, mais en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont insuffler de la politique dans les élections. Et c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que, en fait, à partir du moment où ils décident de virer les vieux et les gros, enfin, moi, c'est les gros, ils parlent pas, c'est pas une question d'âge, vu qu'on est quand même en plus dans une force militaire. Mais quand il s'agit de... Les deux arguments, c'est un, il faut des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire ressemblent au sens qui est la même sociologie, en fait. Donc, ils demandent des commerçants et des artisans et plus des notaires, etc. Et ensuite, en fait, ils vont faire des professions de foi, ils vont faire signer des pétitions dans la salle pour que les gens se prononcent politiquement et que le vote se fasse là-dessus.
Paulin Ismar, on parlait tout à l'heure avec Raphaël Barra de cette ce modèle de Cicéron. On en avait déjà parlé d'ailleurs avec Olivier Christin dans une émission précédente, Vox Populi, et le titre d'un livre important d'Olivier Christin sur ces pratiques électorales de l'époque moderne. Bah, aujourd'hui, d'une certaine manière, la démocratie grecque, dont vous êtes un spécialiste, c'est toujours une ressource pour réenchanter nos démocraties contemporaines. Yves Saint-Omer parle même de néo-athéniens qui vont chercher dans le passé grec justement de quoi conforter cette volonté de remettre en jeu, par exemple par la question du tirage au sort, nos pratiques.
Oui, c'est ça. La référence, en fait, aujourd'hui à la démocratie athénienne, elle est très vivante à la fois chez les penseurs du politique et dans les cercles militants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle se disperse, disons, à des très largement sur l'échiquier politique. À la fois à l'extrême gauche, il y a eu un livre il y a plusieurs années très intéressant de Fabrice Wolf qui s'appelait « Qu'est-ce que la démocratie directe manifeste pour une comédie historique ?» et qui revendique l'héritage de la démocratie athénienne. Mais Fabrice Wolf est dans la mouvance anarcho-autonome. Et puis, aux États-Unis, c'est plutôt chez les libéraux-démocrates qu'on va retrouver cette inspiration athénienne chez quelqu'un, par exemple, comme Josiah Auber, qui n'hésite pas à écrire que la démocratie athénienne est le meilleur régime politique pratiquement imaginable.
Bon. Et pour vous, c'est quoi en fait? À quoi ça peut nous servir aujourd'hui, là, cette référence athénienne? Pour comprendre justement comment, qu'est-ce qui se passe quand rien ne se passe? Parce qu'il n'y a pas que les effervescences démocratiques, il y a aussi le fonctionnement ordinaire des institutions.
Non mais, il y a énormément de pratiques ordinaires du fonctionnement de la démocratie athénienne qui peuvent nous inspirer. Et d'abord, il faut bien partir. Le point de départ, c'est d'abord de reconnaître que c'est une démocratie qui ignore le principe de représentation. C'est une démocratie directe et où l'essentiel de ce qui fait la démocratie n'est pas dans le vote, mais est en réalité dans la pratique délibérative, et la pratique délibérative telle qu'elle se pratique à plein d'échelles différentes dans la cité. Et elle tient aussi, la démocratie, elle réside aussi, l'idéal démocratique, dans le contrôle permanent que le peuple exerce sur les élites. Bon, des questions
c'est
évidemment
qu'on voit déjà dans votre livre, Raphaël Barra, cette question de la démocratie, qui n'est pas seulement dans le vote, qui est dans la délibération.
Oui, et puis elle est aussi, je pense, dans les rapports de force sociaux. Et si, justement, c'est ce que disait Mathilde Larère tout à l'heure. Finalement, c'est pas seulement la technique de vote qui va changer les choses. Et une fois que le vote secret est introduit à Genève, il n'y a pas d'effet immédiat, en fait, dans les élections. Il faut attendre 20-30 ans pour que, véritablement, on élise plus systématiquement les sortants et on puisse élire le huitième de la liste et il y ait des résultats imprévisibles. Mais pendant ces 20-30 ans, il y a des mobilisations, notamment parce qu'on construit de nouvelles fortifications et on crée de nouveaux impôts sans demander l'avis du peuple, du Conseil Général, et il y a des lettres dites séditieuses qui circulent dans la ville. On s'organise dans les milices bourgeoises, justement, quand vous parliez de garde nationale, la révolution de 1734-38 à Genève, ce sont les milices bourgeoises qui servent de cadre de mobilisation et qui vont être d'ailleurs suspendues ou bridées après cette révolte. Donc il ne faudrait pas être dans un fétichisme de la procédure.
Bien
où tout tient à ça. Les mobilisations sociales sont essentielles également.
Mais ce qui est intéressant sur l'idéal de démocratie directe, à partir de pendant tout le 19e siècle et maintenant au 20e siècle, les références elles vont aussi s'ajouter à celles de la démocratie grecque, et les grandes références quand on veut défendre la démocratie directe, qu'on retrouve d'ailleurs dans les mouvements militants actuels, c'est soit la constitution de l'an 1, alors Raphaël parle surtout du projet de Condorcet, mais le texte même de la constitution de l'an 1 est souvent, tout le 19e siècle cite la constitution de l'an 1 en permanence, avec justement ces procédures de réappel, de contrôle des élus, d'assemblées locales qui en fait peuvent intervenir dans le processus de fabrication de la loi. Et puis après, l'autre grande référence, c'est la Commune de Paris. La Commune de Paris qui, même si c'est un gouvernement représentatif, a été une expérience de démocratie hybride avec du direct aussi, quoi.
Mais je me rends compte que à nous quatre, on a les quatre périodes académiques de l'histoire.
C'est pas mal,
Histoire ancienne, médiévale, moderne, contemporaine. J'en chialerais d'émotion. Justement, au Moyen-Âge, le vote à la majorité était plutôt l'exception, et ce qu'on cherchait, c'était vraiment le consensus, d'où la nécessité de débattre sur les procédures même du débat. C'est d'ailleurs l'enjeu du film de Mariana Otero, L'Assemblée, sorti en 2017 sur l'expérience démocratique de Nuit Debout. On en écoute un extrait.
En 15 jours, on n'est pas d'accord sur quelle société on veut. Si on est anticapitaliste, anti-social, tout ça, ça débat. Et ça doit débattre. Et c'est normal, il faut du temps. Donc, pas de vote.
Le fait de voter, de discuter, de donner un avis consultatif à un moment M, c'est intéressant. C'est déjà bien.
Les assemblées peuvent avoir plusieurs objectifs. Décider, proposer, organiser, débattre, rendre compte.
On demande aux commissions qui s'expriment d'essayer, dans la mesure du possible, de ne pas s'exprimer si elles n'ont pas une chose très importante à dire. On leur propose, on leur dit, bon, on va voir ce que ça donne et puis on verra bien.
Il y avait la commission climat dont on a signalé la présence qui voulait s'exprimer. S'il y a d'autres commissions, rapprochez-vous. On n'a pas d'ordre du jour, ça va être qui est là, va prendre la parole.
Il me semble que ça, c'est la plus belle réponse donnée aujourd'hui à la crise et à la déliquescence absolue de nos institutions démocratiques. Voilà, j'ai respecté mon temps.
Qui aurait dit il y a un mois qu'on aurait pu se poser devant ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette fausse Assemblée nationale une Assemblée populaire improvisée avec un mégaphone. C'est un véritable changement de système dont on a besoin.
L'Assemblée, le film de Mariana Otero, s'achevait aussi par le délitement du mouvement La Place qui se vide. Et dans un beau texte publié dans Les Temps modernes, encore une fois, le philosophe Patrice Maniglier y voyait aussi une sorte de spectacle un peu morne d'un rituel essentiellement soucieux d'obéir à ses propres règles. Il écrivait « Rien ne menace plus le débat que cet impératif de débattre ». C'est aussi une difficulté, en fait, de ce ritualisme, en fait, de la délibération, Mathilde Larère.
Oui, bien, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des rituels et c'est des stratégies. Enfin, n'importe quel militant apprend très vite à retourner une assemblée générale, savoir comment organiser un vote pour l'emporter, à quel moment emporter le vote pour l'emporter. Enfin, il suffit de faire des mouvements étudiants pour voir que les étudiants syndiqués, on est formés à ça. Il y a des stratégies. Et ce qui était très intéressant à Nuit Debout, c'est que justement, ils essayaient de casser ces stratégies en inventant des nouvelles techniques de délibération, d'approbation et comme de réponse. approbation parce que les fonctionnements tels qu'ils se sont un peu sédimentés, s'ils sont bien maîtrisés, en fait, ils assurent le pouvoir à ceux qui les maîtrisent, hein, et pas forcément à ceux qui sont les plus convaincants.
C'est ça. En tout cas, l'enjeu historique et politique, c'est bien l'articulation entre gouvernement représentatif et démocratie directe, c'est-à-dire comment éviter la réduction du citoyen à l'électeur. Et Rousseau l'écrit magnifiquement en 1764, dans ses lettres écrites de la montagne, reprenant évidemment cette expérience genevoise, c'est en exergue de votre thèse, hein, Raphaël Barra, en votant, dit-il, vous faites avec un grand appareil un choix de moindre importance, mais en sortant de là, vous n'êtes plus rien.
Oui. Il dit la même chose à peu près sur l'élection des députés anglais, qui sont libres tous les 7 ans seulement quand ils élisent leurs députés. Ce qui est intéressant après, c'est que Rousseau ne rejette pas totalement le gouvernement représentatif. Il pense que avoir des représentants, ça peut être utile, avoir un gouvernement, ça peut être utile pour tout ce qui est la gestion des affaires courantes, des affaires exécutives, mais que la loi doit être votée directement par le peuple. Et je pense qu'on a toujours encore aujourd'hui, chez la plupart des politiques, cette idée que on peut trouver une forme de complémentarité en fait entre la démocratie directe et la démocratie représentative, et bon, c'est quelque chose d'ailleurs qui était déjà avancé par les Genevois, hein, les affaires courantes pour le gouvernement et les affaires d'importance pour le vote direct du peuple.
Mais Il écrivait,
ce qui met fin finalement à cette souveraineté du peuple et à son exercice par la discussion et la recherche du consensus, c'est aussi à partir de l'instauration du suffrage universel masculin en 1848, quand on met fin au vote en assemblée, où en fait l'électeur rentre dans le bureau, dépose son bulletin puis part, alors qu'avant on était tout le monde est assemblé dans une même salle et discute, et au terme de la discussion vote. Mais la fin de ce processus qui s'expliquait pour des raisons il y avait trop de monde, c'est ça qui met fin en fait et qui réduit le citoyen à l'électeur.
Mais oui, mais ça c'est fondamental aussi, Paulin Ismar, pour la démocratie grecque. C'est-à-dire qu'on peut pas, personne, j'imagine, parmi les Grecs ne pouvait imaginer qu'il allait changer le monde en votant.
Non, parce que l'essentiel de la vie démocratique ne résulte pas du vote. D'abord, les principaux détenteurs du pouvoir dans la cité, ils sont pas élus, ils sont tirés au sort. Et puis de toute façon, dans les cités démocratiques, leur pouvoir est quand même assez faible. Tout se passe dans les instances de délibération, dans lesquelles d'ailleurs, très souvent, on s'en rend compte de plus en plus, on vote pas forcément. C'est-à-dire que y a pas forcément de vote à la majorité. On délibère pour arriver à une position de consensus. À ce moment-là, on considère que c'est la cité à l'unanimité qui a pris une décision.
Comme dans les clubs de la commune.
Raphaël Barra.
Comme dans les comités universitaires, quand on considère que si on vote, c'est qu'il y a un problème. Donc, vaut mieux qu'on arrive à une décision par consensus apparent, comme dit le sociologue Philippe Urfalino.
Et comme dans une communauté monastique du Moyen-Âge, ainsi que le dit très bien Jacques Dallarin dans le livre que vous avez co-dirigé, Raphaël Barra, et qui sera sur le site de France Inter. D'une certaine manière, pourquoi on vote alors? Comment on peut poser cette question ou tenter d'y répondre? Est-ce que c'est pour faire communauté? Est-ce que c'est pour se donner la possibilité, au fond, de devenir un corps délibérant?
Sous l'Ancien Régime, on vote toujours en tant que corps. On ne vote pas, c'est pas un ensemble d'individus qui expriment son opinion, c'est un corps, et c'est pour ça que l'Assemblée doit rester au complet jusqu'à la fin des opérations. Donc ça dure 3-4 heures. Après, je pense que le vote, évidemment, ne va pas tout changer. Il y a une réalité des rapports de force sociaux. Mais on le voit quand même sur le temps long qu'à Genève, ça change des choses quand ça accompagne les mobilisations, qu'on va demander des nouvelles façons de voter, qu'on va obtenir aussi de nouveaux droits. Et bon, jusqu'à l'expérience de la Révolution française qui a un grand chamboulement. Peut-être une chose qui est intéressante, c'est poser la question de l'échelle. On a parlé de Genève, de la Commune, de l'Athènes antique, donc une échelle très réduite. Mmh. Et souvent, on a dit la démocratie directe n'existe qu'à cette échelle-là. Je pense que maintenant, on a des contre-exemples. La Constitution de l'An 1, c'est à l'échelle du plus grand pays d'Europe à l'époque. Et maintenant, les assemblées tirées au sort, peut-être, maintenant, nous permettent d'alimenter des débats avec des citoyens dans leur diversité qui se font entendre à une échelle nationale aussi.
Ce qui est compliqué avec le vote, c'est que c'est un instrument à la fois nécessaire, mais pas suffisant de la démocratie. Mmh. Mais en même temps, si on nous le supprime, on se rendrait bien compte que quand même, il y a un problème.
C'est ça.
Donc, on est bien obligé de le garder et que ça ne sert pas non plus complètement à rien. Enfin, le Front populaire est quand même arrivé par le vote. Enfin, il y a des moments où ça peut infléchir. La question est ensuite ce que ceux qui sont élus font du vote qui leur a été donné. C'est la question du mandat dans ce cas-là. Mais le vote, pour moi, n'est pas complètement inutile. Mais par ailleurs, ça permet de dire quelque chose du peuple et de oui, de ses choix politiques à un moment.
Vous voyez, avec les quatre périodes scolaires, on fait pas vraiment un cours d'instruction civique, mais enfin, on dit quand même quelque chose sur la nécessité de voter. Merci Mathilde Larrère, merci Paulin Ismar, merci Raphaël Barin. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Florian Dorimini. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons d'une année creuse dans la Révolution française, 1797, avec l'historienne Anouchka Vazak. Bon dimanche sur France Inter.